Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. À nouveau ensemble, dans nos lectures en liberté, pour la suite du récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Le 7 octobre, par la haute marche. Parfois, je quittais les forêts pour 3 ou 4 kilomètres de marche sur la route entre 2 écheveaux de chemin noir. Les automobilistes faisaient un signe de la main comme pour épousseter une saleté sur la route, ou pire, ils klaxonnaient. C'était injuste, car le moteur à explosion n'avait installé sa suprématie sur la marche à pied que depuis une date récente. Aussi le piéton aurait-il dû jouir de la préséance historique. Dans les granges, les ballots de foin étaient rangés pour l'hiver. Ils s'alignaient en blondes et grasses roues. Il me faisait rêver à des festins de pâtisseries orientales. À Mourzine, je dormis furtivement sur les marches de l'église, avant de chercher un bistrot où me jeter un viandox, puisque je n'avais plus le droit de me fouetter les attelages à coups de schnapps. Adieu la mousse, adieu le vin, ma vie à l'eau. Dans les bars dont je poussais la porte, les habitués me dévisageaient, jamais hostiles, mais trahissant un léger étonnement. Était-ce ma gueule en biais, mon accoutrement? J'étais le type qui demandait un bouillon avec son sac à dos, sa bouche de travers et ses bâtons de marche, le touriste, en somme. Et lorsque j'annonçais être de Paris au monsieur de Vansabière qui me posait la question, je sentais le vieux sarcasme paysan pour le citadin que celui-ci lui rendait souvent en mépris. Alors je regrettais ces jours de Toscane en compagnie de la baronne Béatrice von Rezzori, propriétaire d'une exploitation d'oliviers au nord de Florence. Une fois, j'avais emmené Béatrice en auto jusqu'au pressoir du village où venait l'heure de passer à la machine les tonnes d'olives de Santa Maddalena. Béatrice, très au fait de sa production d'huile, surveillait les étapes et se trouvait aussi à l'aise au milieu des paysans à 11 heures du soir qu'elle devait l'être à la table des ambassadeurs. Ce dont j'étais témoin dans l'odeur doucereuse des filets aurifères, c'était ce cousinage entre les princes de la vie et les paysans de la terre, cette fraternité d'enluminure pas encore fracturée par la lutte sociale. Rêve romantique, en somme. Le 9 octobre, dans la Creuse. À grands pas, sous le ciel qui s'ouvrait. J'avais contracté une habitude instaurée en rituel et que je recommande à tout marcheur détaillé. En déboulant devant un pré bordé par une forêt, je gueulais ce cri de ralliement destiné à un dernier carré. Qui guette à la lisière ? Et parfois je débusquais un chevreuil apeuré, un faisan, un lièvre ou un échassier qui décollait malhabilement, preuve que mon appel n'était pas vain et que le royaume était encore gardé en ses orées par des sentinelles vaillantes. Les lisières sont des remparts entre les empires. Je traversais Héra, charmant hameau peuplé de Hollandais occupés à fleurir des balcons. J'avais tenu Héra pour le nom d'une cité de l'ouest de l'Afghanistan où les femmes s'étaient immolées par le feu afin d'échapper à l'enfer coranique. Je me dis que la toponymie était une science étrange et distribuant le même nom à des lieux dits charmants et des cités maudites. Raisonnons mieux. Peut-être étaient-ce les hommes qui ne mettaient pas la même grâce à se créer les conditions du bonheur selon la loi qu'ils se choisissaient. Un homme en chapeau de paille me salua de son jardin. Il était d'Amsterdam. On s'installe ici car il n'y a plus personne. Il reste dans le village une vieille dame abandonnée à qui nous faisons la cuisine. Quelle leçon! Ces protestants du Nord trouvaient le moyen d'appliquer les vertus de la social-démocratie aux confins de leur retraite. Leur programme aurait pu s'intituler « Humanitaire et résidence secondaire ». Les forêts se doraient, que le sorbier ponctuait de rouge. Les pommiers croulaient sous les fruits. Leurs contours japonisaient la rousseur des orées. Le vent arrachait des paillettes aux arbres des fossés. Elles tombaient en copeaux, motifs de Klimt. J'aurais donné un doigt de pied pour cheminer de concert avec un professeur de l'école du Louvre qui m'aurait dispensé à chaque coup d'œil un cours d'histoire de la peinture du paysage. Pourquoi les peintres européens avaient-ils mis si longtemps à quitter leurs ateliers pour planter les chevalets dans les paysages? Pourquoi avaient-ils tardé à convier le monde dans leurs œuvres? Il est probable que recevoir dans sa soupente de jolis modèles prêts à poser nus prédispose à rester chez soi. Les motifs religieux avaient longtemps été les seuls autorisés par le pouvoir. L'homme médiéval appartenait à Dieu. La peinture exprimait le sacré. La Renaissance avait libéré l'inspiration. Les Flamands avaient peint leur campagne. Bruegel avait fait des patineurs et des petits canards le sujet de ses toiles. Avant lui, certains artistes avaient tout de même contourné les impératifs de l'Église en inventant la Veduta. Ils ménageaient dans une scène sacrée une fenêtre par laquelle se déployait une perspective sauvage. Des vierges à l'enfant se trouvaient assises sous des croisées dans l'enchâssure desquelles serpentaient des rivières. Un maître de la Renaissance italienne, Berardino Luini, avait représenté côte à côte la Vierge Marie et Sainte Élisabeth tenant respectivement sur le genou un énorme enfant Jésus et un petit Saint Jean-Baptiste grassouillet. Le groupe se tenait devant une forêt luxuriante dont on entendait presque froufrouter les ramures. J'imaginais que le Christ aurait bien aimé s'échapper avec son camarade pour aller jouer aux Indiens dans les fourrés. Nouveau ressort de la fuite sur les chemins noirs, échapper aux conventions, passer par la Veduta, rejoindre les forêts dans l'arrière-plan. La cassure que j'attendais arriva à quelques kilomètres au nord du village de Vigoulan. Une dernière pente menait à la pliure du terrain, puis la plaine naissait. L'horizon offrit ses promesses. Le ciel couvrit toute la terre, bienveillant. Je passais du Limousin au centre, de la Creuse à l'Indre. C'en était fini des bastions de granit entaillés par des ravins ombreux où incubaient les présidents de la République. Je m'extrayais du massif central. Oh, ce n'était pas encore la France royale. La plaine seigneuriale et les chasses giboyeuses de la Loire. Mais déjà un Berry plat et béni. les fronts paysans seraient moins soucieux, la terre moins âpre, la ronce moins vigoureuse et les serpents moins sûrs de leurs droits. À partir de là, j'infléchirai ma route vers le nord-ouest pour viser le Cotentin, quittant la stricte géographie hyper-rurale des rapporteurs gouvernementaux. Si j'avais voulu m'y conformer, j'aurais poussé vers l'Ardenne, par l'Allier, la Nièvre et l'Yonne, trouvé les chemins noirs dans une campagne plus modernisée et jacobine compliquait le jeu. Il faudrait mieux scruter les lieux pour y repérer les caches. L'espace ouvert m'éperonnait d'une vigueur nouvelle. Le relief déterminait mes humeurs en vertu d'un phénomène géopsychique. Le 10 octobre, le pays boit chaud sud. Donc, la plaine. Les haies disparaissaient. Les champs n'étaient plus clos. Le labyrinthe s'ouvrait sur le cœur de France. Les villages se groupaient et je marchais par de longues allées boisées ou sur les rebords des champs. Des chansons me venaient aux lèvres. Elles avaient mis des mois à se frayer un passage dans ma gorge nouée. Le travail paysan dans l'open field imposait l'effort collectif. Dans les pays de bocage, les familles se suffisaient à elles-mêmes. Un sociologue, passé maître dans l'enfilage de théories à rebrousse-poil, en avait conclu que les systèmes agricoles déterminaient les choix politiques. Il prétendait que le bocage élargissait l'esprit. Les paysans enfermés toute la journée entre leurs haies étaient disposés à accueillir l'étranger pour rompre la solitude. Les villageois des champs ouverts, eux, avaient tout à perdre des afflux étrangers. Ceux-ci rêvaient de remparts puisqu'ils n'en avaient point. Ceux-là possédaient une citadelle, ils pouvaient se permettre de placer la part du pauvre à table et d'attendre sa visite. En somme, on souffrait davantage de la mondialisation dans une plaine que derrière les murets.
Il voyage en solitaire, nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qu'il se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire, et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Puisqu'il n'a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre. Mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie. et où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne. Car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre.
Lecture en liberté, Denis Flageol.
Sylvain Tesson, sur les chemins noirs. Le 11 octobre, l'Indre. Les heures passèrent dans les forêts de la zone centrale. Suivre les chemins noirs consistait ici à relier les îlots de la vieille selve gauloise dont il subsistait des récifs heureux. Sous les nefs, neigeaient les larmes jaunes. L'air sentait la mousse et le mystère humide. Je croisais des cavaliers, des cervidés et des chasseurs qu'une science acquise en vue de l'obtention du permis de chasse avait doté de la capacité à ne pas confondre les premiers et les seconds. Entre deux bois, je lançais mes cris d'amour aux vaches et obtenais parfois un long « meuh » en réponse. À Sainte-Sévère, je lus la presse dans un soleil huileux. Les nouvelles du monde n'étaient pas pires que d'habitude. Après tout, quand Attila avait débarqué avec les Huns sur les rives de Loire, la situation n'avait pas dû être plus enviable qu'aujourd'hui. À Ardentes, l'Indre coulait lentement, puissante, tachetée de feuilles d'or. L'automne commençait à couvrir les rivières de motifs léopards. La contemplation du courant me traversait de souvenirs paisibles. Les rivières ont-elles la nostalgie de leurs sources ? Je trouvai un bar en sortant du village où je demandai mon bouillon. « Vous allez où ?» dit la patronne. « À Châteauroux, à pied. »« C'est loin. Ne prenez pas de viandox, cela endort. »« Quoi alors, une bière ?»« Pas le droit, dis-je, la médecine. » Et je pensais que j'aurais bien aimé me jeter quelques verres de vin blanc pour sentir grandir en moi un vide amical. Je me serais appuyé au zinc et j'aurais regardé mes pensées prendre corps et devenir des petits personnages de carnaval. J'aurais conversé avec mes voisins de comptoir, ils seraient devenus mes frères de sang, puisque notre sang aurait été irrigué des mêmes composants. L'eau minérale et le viandox me privaient de cette fraternité. L'un des buveurs voulut bien me donner un conseil malgré tout. Buvez quand même et prenez l'autobus. Le 12 octobre, dans la champagne de Châteauroux. J'avais dormi dans un hôtel à Châteauroux, un hôtel à Châteauroux. Cette phrase me rappelait vaguement la didascalie d'un vaudeville et la simple évocation de cet épisode me ferait désormais penser que j'étais devenu un bourgeois de la biche. À l'aube, mon ami Thomas Gouasque arriva à la gare, chargé de son sac, et nous quittâmes la ville sur le champ par les bords de l'Indre et une enfilade de quartiers vides. Gouasque venait de perdre son père. Il allait marcher quelques jours avec moi pour fouler aux pieds le chagrin et renouer avec les cavalcades que nous menions depuis 10 ans. Ah, mon vieux, les temps ont changé, dis-je. Pourquoi cela ? 10 ans, tous les deux, entre Kaboul et Katmandou, pour finir à Châteauroux. Mais quel désastre ! Photographe, il avait voyagé dans 60 pays pour ses reportages de presse, avec un goût marqué pour l'Asie du Sud-Est. Nous nous étions souvent retrouvés dans le désert de Gobi, sur le plateau du Tibet ou au bord du Baïkal. L'Indre, c'était la première fois. Le premier jour, nous abattîmes 40 kilomètres pour bivouaquer le soir non loin de Châteauroux. Nous revenions sur nos pas, mais nos pas avaient été beaux, et il fallait bien zigzaguer si on voulait marcher dans l'ombre. Sous les peupliers, nous évoquions les morts, son père, ma mère. Nous n'avions pas les mêmes recours pour les consolations. Il avait Dieu, je me contentais du monde. Qu'est-ce qui était le plus secourable ? Croire à l'éternité du paradis ou chercher l'ombre des morts dans les plis de la nature ? De cela nous parlâmes beaucoup, mais le fossé était infranchissable. Moi, je me plaisais à imaginer que le souvenir de ma mère se manifestait parfois dans les reflets d'un étang. Lui savait son père en paix dans des parages qu'il gagnerait un jour. Nous n'allions pas commencer à tenter de nous convaincre. Nous traversâmes des plaines caillouteuses. Les pentes inclinaient leurs biseaux vers le ciel, offrant à la lumière de beaux aplats fertiles. L'air sentait la champignonnière. Le paysage avait des airs de champagne. Pendant 4 jours, nous cheminâmes le long de l'Indre. La rivière déroulait sa soie à travers les haies de peupliers ou les remparts de saules. Nous captions sa présence. Elle éclatait dans la lumière, se rétractait dans l'ombre, revenait, s'enfuyait encore. Nous cherchions les beaux bivouacs sur les îles, dans les sous-bois. J'avais presque la crainte de déranger les fées tutélaires. Nous mettions la table sur les souches dans l'écorce desquelles dormaient des salamandres bleus à la peau de velours. Nous dissimulions nos feux pour ne pas ajouter leur crainte du romanichel au malheur des paysans. Gouasque taillait des pics dans des branches de sureau pour embrocher des saucisses, et nous comprenions pourquoi les Russes aiment tant faire griller de la viande dans la forêt. Le bivouac est une échappée. On s'y saoule sans entrave et aucune oreille n'entend vos conversations. Charcuterie et liberté. Le bivouac est un luxe qui rend difficilement supportable plus tard les nuits dans les palaces. Le jour, nous étions en quête de petits commerces dans des villages endormis. Trouver un café équivalait à chercher l'oasis au sud de Ouarzazat. Glion, ville-dieu, avait été frappé d'un sort funeste. Le destin les avait affligés d'une nationale. C'était une saignée dans le gras de la campagne. Une noria de 33 tonnes traversait des glacis vides. À Ville-Dieu, sur le tympan de l'église du XIXe siècle, s'étalait en lettres noires « République française ».« Saloperie de Père Combes », dit Gouasque. À Glion, cette banderole sur la mairie, ruraux sous-citoyens de la République. C'est un slogan contre les projets de fusion des collectivités. Les commerces, voilà ce qui va fondre dans la fusion, dit Gouasque. Le pays était comme les agonisants, pas content de changer d'air. le temps battait ses cartes, l'histoire avançait et les vieilles structures s'effritaient. Dans les campagnes comme au sommet de l'État, l'institué vacillait. Nul n'avait prévu la suite. Les entre-deux ne sont pas agréables et personne ne semblait rassuré à l'idée de vivre dans une nouvelle de Philippe K. Dick. Restait la forêt pour les soirées charmantes. Restaient les chemins noirs pour s'amuser un peu. La voie ferrée de Loche à Châteauroux, désaffectée en 1970, sinuait d'une rive à l'autre. Nous en suivions les tracés pendant quelques kilomètres, époustant les passereaux dans les buissons, passant des ponts métalliques jetés sur l'Indre après la guerre. Nous boitions sur les solives, forcions les fourrés vers un septentrion. Les ronces encombraient les rails, la broussaille est la première à reconquérir les friches. Quand on s'est pénétré de cela, on regarde la ronce d'un autre œil. J'avais une admiration pour les plantes épineuses. Je préfère la civilisation du champ cultivé. Que veux-tu ? Me disait Gouasque. Le moment était romanesque. Un chemin se perdait et nous nous y sentions bien car il n'offrait aucun espoir. Seulement le jaillissement des songes. Beaulieu-les-Loche, Azay-sur-Indre, la rivière déroulait ses caresses. À l'aube, les corbeaux nous réveillaient, anonymement bien sûr, et nous repartions dans le paysage. Ils procuraient l'impression d'une douceur, d'un grand secret sage, d'une indolence lointaine. C'était un pays pour les oiseaux timides. Les cours d'eau eux-mêmes frôlaient les rives avec des grâces aimantes. Seules les musaraignes avaient des hardiesses quand elles grimpaient sur nos sacs affolées par les odeurs de boulangerie. La conversation nous ramenait à notre marotte, les chemins noirs. Gouasque savait qu'ils se déployaient parfois hors des cartes de géographie et foraient leur galerie en nous. Il était difficile de faire de soi-même un monastère, mais une fois soulevée la trappe de la crypte intérieure, le séjour était fort vivable. Je me passionnais pour toutes les expériences humaines du repli. Les hommes qui se jetaient dans le monde avec l'intention de le changer me subjuguaient, certes, mais quelque chose me retenait. Ils finissaient toujours par manifester une satisfaction d'eux-mêmes. Ils faisaient des discours, ils bâtissaient des théories, ils entraînaient les foules. Ils choisissaient les chemins de lumière. Quitte à considérer la vie comme un escalier, je préférais les gardiens de phare qui raclaient les marches à palans pour regagner leur tourelle aux danseuses de revue qui les descendaient dans des explosions de plumes afin de moissonner les acclamations. Il y avait eu des milliers de manières de fuir le monde. Un homme du paléolithique avait dû initier le mouvement. Je l'imaginais se lever, quitter le halo du feu et disparaître à jamais dans la savane, menacé et libre. Plus tard, l'histoire avait multiplié les expérimentations. Port-Royal était la façon la plus noble et la plus accomplie de prendre congé. Le monastère cistercien la plus aisée. Tout était déjà en place et le repas servi à heure fixe. Le cabinet d'études la plus modeste, il suffisait d'aimer l'érudition et d'avoir un bureau. L'atelier d'artiste la plus civilisée, on se retirait et on laissait une œuvre à la postérité. Le refuge de montagne la plus hédoniste, en cas d'ennui, on s'envoyait une face nord pour la beauté du geste. La grotte d'ermite, époque bouffeur de lézards du IVe siècle, la plus doloriste. La bergerie dans les alpages la plus romantique. La cabane dans les bois la plus juvénile, le fortin colonial aux avant-postes de l'Empire la plus classe, la commune rejouée dans un corps de ferme la plus risquée, car l'État n'aimait pas les îlots de contestation potentiels. L'écrivain Elisabeth Barillet venait d'exposer une nouvelle méthode. Elle affirmait que sa semi-surdité l'avait condamnée à l'aventure de la profondeur. Restait aux êtres terrassés par la laideur du monde à se crever les yeux. Voilà donc pour ce soir la suite de ce récit de Sylvain Tesson sur les chemins noirs que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.